Marthe Bertin, le dompteur. 3 janvier. Comment peut-on bien commencer son journal? Je n'en sais absolument rien, mais cela ne m'arrêtera pas, ma décision, quoique subitement prise, étant déjà irrévocable. Je suis trop malheureuse, et si je ne dégonfle pas mon cœur de temps en temps, il finira par se changer en pierre, comme c'est arrivé, dans une légende, à une pauvre dame qui renfermait tous ses chagrins en elle-même. Elle en est morte, du reste, et son histoire m'a donné le cauchemar. De son temps, on n'apprenait sans doute pas à écrire. Autrement, elle aurait eu, bien sûr, la même idée que moi. À défaut de notre confident, elle se serait adressée à elle-même. C'est un bon système, je n'ennuierai personne et je me consolerai toute seule, car il faut toujours finir par se consoler. Depuis un quart d'heure, je pleure dans mon mouchoir et me voilà bien avancée, mon mouchoir est trempé, mes yeux sont si rouges que je n'ose plus me montrer dans la maison et je me sens si triste, si abandonnée, toute seule dans cette misérable chambre que je ne sais pas ce qui serait arrivé si cette heureuse inspiration ne m'était venue, écrire mon journal. Cette idée m'a ressuscité tout d'un coup et me voilà installée à ma table, ravie d'avoir trouvé une occupation. Peut-être est-il bon, quand on veut écrire sérieusement son journal, de commencer par quelques mots sur sa personne et sur sa famille, puis sur les principaux motifs qui vous poussent à l'écrire. Est-ce indispensable pourtant? Mon journal sera pour moi seul et je sais mon nom et mon âge. Quant aux principaux motifs, je n'ai pas à craindre de les oublier. N'importe, ma biographie n'a jamais été faite et je ne vois pas pourquoi elle ne le serait pas, comme bien d'autres qu'on me fait apprendre par cœur et qui ne m'intéressent pas tant que la mienne. Ce ne sera pas long d'ailleurs. Nom et prénom: Thérèse Cécile Rose de Javerny. Âge: 12 ans, 3 mois et 20 jours. Résidence: La Janière, vieux château croulant, situé en Touraine et appartenant à tante Julie Clémence de Javerny. Pauvre tante Julie, je la vois encore, le jour où papa nous a amenés ici, où nous avons été lâchés pour la première fois dans son jardin. Des canetons pour une pauvre poule. Pierre cassant, pour son début, un pot de géranium. Maurice, effaré, poussant des cris de paon dans les bras de Fidoline chaque fois qu'on l'approchait. Moi, l'arrosoir en main, noyant par excès de zèle des fleurs qui n'avaient pas besoin d'être arrosées. Marie, pleurant dans un coin, parce qu'elle regrettait Paris et détestait la campagne. La pauvre poule ne savait auquel courir. Elle était si nerveuse que ses rubans tremblaient sur son bonnet et ses lunettes bleues sur son nez. Quel bouleversement dans la maison! L'arrivée à la Janière est l'événement principal de ma biographie, puis le départ de notre pauvre papa pour la Cochinchine. 3 ans d'absence, c'est trop long. Et quand il reviendra, nous serons de vrais sauvages, il ne nous reconnaîtra plus. C'est triste, ces grandes séparations. Et pourtant, voilà Pierre qui veut être ingénieur comme papa et entreprendre aussi de grands travaux dans les pays lointains. J'espère bien qu'il changera d'avis, je m'ennuierai tant sans Pierre. D'abord, s'il n'était pas ici avec nous, je demanderais à papa de me mettre en pension tout de suite. Cependant, Mélanie serait trop contente. Et cela me vexerait de lui faire ce plaisir, elle est si méchante. C'est encore sa faute si j'ai tant pleuré aujourd'hui. Elle prétendait ce matin que nous avions été très gâtés et qu'il était bien temps, quand nous sommes arrivés, que tante Julie nous prenne en main. Je crois que Léonard n'était pas de son avis. Il a voulu nous défendre, mais elle a bien su lui imposer silence. Quand Mélanie parle, il n'y a pas à répliquer. Par exemple, Léonard s'est bien rattrapé après. Étant à moitié pétrifié par le froid, dans ma grande chambre sans feu, je venais de descendre à la cuisine pour me griller devant la cheminée quand Léonard est entré. Sans rien dire d'abord, il a jeté sur les chenets un fagot de petites branches bien sèches et m'a fait une belle flambée qui m'a réchauffé en 5 minutes. J'aime beaucoup le vieux Léonard. Il a des yeux de bon caniche, avec des gros sourcils qui s'en vont dans tous les sens, et sa figure ronde fait plaisir à voir, après celle... Non, laissons Mélanie dans son coin. Léonard est juste, c'est pour cela aussi que je l'aime. Il nous gronde de temps en temps quand nous sommes par trop insupportables. Mais on sent qu'il nous gronde pour notre bien et non pas, comme Mélanie, pour le plaisir de grogner et parce que nous l'ennuyons, et cela fait une si grande différence. Donc Léona regardait mes pauvres mains encore toutes violettes avec un tel air de pitié qu'à la fin je lui dis pour le consoler « J'ai très chaud maintenant, Léonard, et je vous remercie. » Là-dessus, voyant que la cuisinière commençait à tourner autour de son feu, comme si je la gênais, je me suis levée et j'ai disparu. Mais au moment où j'allais refermer la porte derrière moi, Léonard dit quelque chose en grommelant. J'entendis le nom de Mélanie et je m'arrêtai dans le corridor pour écouter. Léonard était en colère et Mélanie fut arrangée d'une belle façon. « Gâtée !» s'écria-t-il à la fin. « Eh, s'imagine-t-elle que des enfants sont élevés chez leurs parents comme elle veut élever ceux-ci ? Leur tante n'est pas sévère, loin de là. Elle est plutôt trop faible et ne sait pas se faire obéir. Aussi, est-ce Mélanie qui mène tout ici, à commencer par sa maîtresse. C'est elle qui les tient en main et non pas mademoiselle, et elle est vraiment trop dure. » Pauvres petits, ils n'étaient pas désirés ici et on leur fait payer la peine et le trouble qu'ils y apportent. » Ici, la cuisinière fit tout bas une observation que Léonard répéta tout haut avec véhémence. « Mal élevés, certes, ils le sont, les pauvres enfants, mais à qui la faute? Qui donc se donne la peine de les reprendre comme il faut et d'une manière suivie? Mademoiselle ne s'entend guère à cela et Mélanie pas du tout. » Elle ne sait que leur parler sèchement. Pour certaines choses, elle les gronde perpétuellement et pour d'autres, bien plus importantes, les néglige tout à fait. Croyez-vous que ce soit un bon système? C'est bien malheureux que leur père ait été forcé de s'en aller si loin. Vous rappelez-vous comme ils étaient gentils quand il les a amenés ici l'an passé? La cuisinière resta un moment silencieuse. Gentils, nous? Elle avait peine, je suppose, à se représenter cela. Mais, forcée d'en convenir à la fin, « C'est positif !» s'écria-t-elle. Puis, d'un ton plus convaincu encore, « Plus ils vont, pire ils sont » reprit-elle. Tant pis pour ceux qui écoutent aux portes. Je fis, à travers la cloison, une belle révérence à la cuisinière et je me sauvai. J'essayai de rire en remontant l'escalier, mais c'était de la bravade, j'avais très envie de pleurer. Au fond, ce que la cuisinière avait dit m'était bien indifférent, je ne suis pas susceptible. C'était les réflexions de Léonard qui me rendaient triste, et c'était aussi... « Mon cher papa, pourquoi êtes-vous parti si loin? Et surtout, ô mon Dieu, pourquoi nous avez-vous repris notre pauvre maman, qui nous aimait tant ?» 6 janvier. Tante Julie a pris froid en allant dans le jardin hier par le brouillard pour surveiller le jardinier qui exécutait tout de travers, paraît-il, ce qu'on lui avait expliqué la veille. Marie dit que le jardinier ne comprend jamais rien. Mais je trouve, moi, que ce n'est pas sa faute. La janière est la cour du roi Péto. Quand ma tante donne un ordre, Mélanie en donne 2. Alors les gens finissent par s'embrouiller, ils font à leur tête et ils ont bien raison. Mais aussi, personne ne s'entend et les choses vont à l'envers. C'est une drôle de maison. En attendant, tante Julie est malade, mais j'espère qu'elle sera bientôt guérie, quoi qu'en dise Mélanie, avec ses airs entendus. « Du repos, a dit le docteur. Mélanie nous l'a répété de sa voix la plus féroce. Je connais son opinion sur nous, des diables déchaînés qui n'écoutent personne. » Mais nous lui ferons voir que nous savons soigner les malades. D'abord, nous n'entrons jamais dans la chambre, tante Julie l'a défendue, et quand nous passons devant sa porte, nous parlons tout bas, sans respirer, et nous marchons sur la pointe du pied. Même dans le jardin, nous pensons à ne pas faire de bruit, et pour courir et crier à notre aide, nous allons tout au fond du bois. Je voudrais savoir ce que Mélanie peut réclamer de plus. Du reste, il faut être juste, elle ne réclame rien. Nous ne la voyons même plus et c'est une grande joie. Comme nous déjeunons et dînons tout seuls depuis hier, nous pouvons rire et causer à table. Ce n'est pas le vieux Léonard qui nous en empêcherait. Il a l'air aussi content que nous de nos vacances. Marie préside la table à la place de tante Julie. Léonard la sert la première et Marie a beau dire... Elle se redresse et fait la grande dame, c'est bien amusant à voir. Pierre est en face d'elle, à sa place ordinaire. Seulement, au lieu de baisser le nez dans son assiette comme d'habitude, quand il a tante Julie devant les yeux, il garde tout son aplomb et fait même à chaque instant des grimaces de plaisir à son vis-à-vis. Marie a près d'elle Maurice, qui ne comprend rien à tout cela, et moi je suis à côté de Pierre, qui me vole mon pain et le peu de dessert qu'on nous donne. Nous sommes si mal élevés, comme dit Mélanie en tournant de profil sa figure pointue. N'importe, nous n'avons jamais été si heureux depuis notre installation à la Janière. Quand les chats n'y sont pas, les souris dansent. Mélanie est enfermée toute la journée avec sa maîtresse et c'est un bien grand vide dans la maison. Pierre le disait tout à l'heure en ouvrant un pot de confiture et nous avons ri. Si Mélanie savait que Léonard nous donne des confitures au goûter, cela ne pourra pas durer, tout est sous clé. La petite provision de Léonard sera vite épuisée si Pierre s'en mêle et quand on demandait à Mélanie, quelle histoire, les murs s'écrouleraient. Moi, je n'y tiens pas. Je suis habituée maintenant à mon pain sec, mais le pauvre Pierre ne peut pas s'y faire. 11 janvier. Tante Julie ne quitte pas encore sa chambre et Mélanie ne quitte pas tante Julie, ce qui prolonge nos vacances d'une manière inespérée. Nous en jouissons d'autant mieux qu'il n'y a rien de grave dans tout cela. Pourtant, voilà une petite ombre au tableau. Par faveur spéciale, Marie a été demandée ce matin chez la malade. Mais elle se serait bien passée aussi bien que moi des instructions qu'elle y a reçues. Tante Julie, ne pouvant s'occuper de mes leçons dans ce moment, passe à Marie une partie de ses pouvoirs. Marie n'a pas osé refuser, mais elle est furieuse. Le plus à plaindre, d'ailleurs, c'est Monsieur le curé. Il sera prié de me faire passer, une fois par semaine, un examen minutieux sur tout ce que j'aurai fait dans l'intervalle avec Marie. Ce sera une séance bien agréable. Sa patience peut à peine suffire déjà aux leçons de Pierre et le voilà chargé du second diable. C'est Mélanie qui a trouvé cette belle combinaison, je le parierai. Pour commencer, j'ai eu déjà une scène avec Marie. C'est du nouveau, car il n'est pas facile de la mettre en colère. Elle est très douce, je dois lui rendre cette justice. Et même, en y réfléchissant bien, maintenant que je suis calme, c'est moi qui ai fait tous les frais de la scène. C'est qu'aussi, au lieu de me toucher, la douceur de Marie m'exaspère, je voudrais bien découvrir pourquoi. Lorsque Pierre annonce les siennes à ce point-là en me les récitant, j'ai tout de suite envie de lui lancer son livre à la tête. Il est vrai que je ne suis pas un modèle de patience et j'ai bien de la peine à résister à la tentation. Je me fâche, je me démène, je lui crie dans l'oreille les mots qu'il oublie, mais c'est pour lui rendre service, c'est pour l'aider. Au moins, il le reconnaît lui-même et ne m'en veut pas, au contraire. Ce matin, Marie n'en a pas cherché si long. Tu ne sais pas un mot de ta leçon, va la rapprendre. Voilà tout ce qu'elle m'a dit après m'avoir laissé patauger sans pitié dans ma troisième croisade. Elle a pourtant pris la peine d'ajouter que Monsieur le curé aurait, pour son début, un triste échantillon des moyens de son élève. C'est là-dessus que je me suis fâchée. De colère, j'ai appris ma leçon par cœur, rien que pour donner tort à Marie. Mais j'ai refusé de la lui réciter une seconde fois. Elle n'aime pas qu'on la dérange, et quand il s'agit de complaisance... Enfin, j'en aurai trop long à dire sur ce chapitre, et d'ailleurs, j'ai besoin d'y réfléchir. En attendant, c'est mon tour d'écrire à papa aujourd'hui, et je vais lui donner des nouvelles de toute la maison. J'ai eu beau chercher et tout bouleverser dans mon tiroir, qu'il était déjà pas mal, impossible de trouver une feuille de papier convenable, et papa n'aime pas que je lui écrive sur des lambeaux tachés et chiffonnés. Il dit que c'est un signe de désordre. Pauvre papa, s'il voyait nos chambres... Marie ne savait plus où elle avait laissé son buvard et ne pouvait rien me donner. Enfin, Pierre a trouvé dans son pupitre une feuille à peu près nette. J'ai coupé le haut de la première page parce qu'il y avait dans le coin un commencement de devoir pour Monsieur le curé et j'ai pu écrire ma lettre. Je raconte à papa que tante Julie est malade et enfermée dans sa chambre et je lui explique la belle combinaison de Mélanie. Par exemple, je passe sous silence ma scène avec Marie. il aurait trop de chagrin de penser que j'ai une si mauvaise tête et que Marie... C'est en écrivant à papa que je vois le mieux mes défauts et ceux de toute la ménagerie avec. Quand je n'ose pas lui raconter tout ce qui s'est passé entre nous, de peur de lui faire de la peine, c'est que nous avons de gros torts les uns ou les autres. Est-ce vrai ce que dit Françoise, que plus nous allons, pire nous sommes ? Pauvre père, que dira-t-il à son retour ? Ce serait si bon d'être un peu grondé par lui. Je voudrais savoir si nous pourrions nous corriger nous-mêmes en essayant bien. Mais j'ai peur que non. En général, ce que nous faisons de notre propre mouvement nous attire des gronderies et des punitions, et pourtant, nos intentions sont bonnes quelquefois. 14 janvier. Mélanie a choisi le mercredi, jour des provisions, pour le fameux examen. De cette façon, Françoise me conduit à ma leçon sans se déranger et nous profitons de la petite charrette. Pierre est ravi à l'idée de conduire l'âne, moi enchantée de faire la partie avec lui et Françoise persuadée que Pierre nous versera dans un fossé et que nous n'arriverons jamais à Saint-Martin. Il est convenu que la cuisinière fera ses courses pendant ma leçon et viendra me reprendre au bout d'une heure. 60 minutes sur la sellette. Par bonheur, je ne suis pas timide. Et puis, monsieur le curé est trop bon pour me faire peur. C'est un puits de science et moi, j'aime les savants. D'ailleurs, tous mes devoirs sont faits et je suis sûr aujourd'hui de ma troisième croisade. Maintenant, il faut que je retrouve mon chapeau. Impossible de me rappeler où je l'ai laissé hier. Dans la buanderie, peut-être, ou sous le vieux hangar. Je vais appeler Pierre, il m'aidera à le chercher. 15 janvier. Ah, la belle journée! Je voudrais être déjà mercredi prochain. Je voudrais prendre ma leçon deux fois par semaine, rien que pour la promenade. Cher petit Biquet, comme il trottinait bien sur la belle route gelée! Pierre chantait à tue-tête pour l'exciter, et Biquet comprenait, car il avait l'air enchanté. De plaisir, il remuait ses oreilles. Moi aussi. Non, qu'est-ce que je dis là? Mais j'étais si contente que je chantais aussi malgré moi. Les paysans riaient en nous regardant passer. Le vent froid nous entrait dans la gorge et nous piquait les yeux. Oh, nous sommes arrivés trop vite. J'en ai fait le reproche à Pierre, nous pouvions si bien faire durer la promenade plus longtemps. À midi sonnant, nous étions à la porte de monsieur le curé. C'était par trop d'exactitude. Du reste, tout s'est bien passé et je n'ai eu que de bonnes notes. Seulement, monsieur le curé avait un peu de peine à se reconnaître dans mes livres et mes cahiers. Il n'en a pas l'habitude comme moi et toutes ces pages arrachées, courant au hasard l'une après l'autre, l'embrouillaient à chaque instant. Dans ma vieille géographie, la Loire coulait en Amérique et les peaux rouges habitaient la Norvège. Le pauvre monsieur le curé s'est donné beaucoup de peine pour remettre chacun à sa place le cours de la Loire au chapitre France et les sauvages dans leur pays. Mais il a perdu courage devant mes cahiers, il y avait par trop à faire. Il les a trouvés très mal propres et même il m'a un peu grondé parce qu'ils n'ont ni haut ni bas, ni commencement ni fin. Tante Julie, pourtant, ne s'est jamais inquiétée de cela. Elle n'est pas si méticuleuse et pourvu que mes dictées soient sans faute, ce qui arrive assez souvent, Dieu merci, peu lui importe qu'elles aient la tête en bas dans mon cahier. J'ai voulu prouver à monsieur le curé que cela est, en effet, sans aucune importance. Mais je n'y ai pas réussi. Chacun a ses idées, cependant monsieur le curé doit avoir raison. Il est là-dessus du même avis que papa. Pierre m'a bien installé à sa place dans la petite charrette quand Françoise est venue me reprendre. J'étais enveloppée comme une princesse dans un grand châle que la sœur de monsieur le curé avait absolument voulu me prêter, me trouvant trop peu couverte. Personne n'avait pensé à cela au départ et je ne suis plus habituée à un tel luxe de précaution. « Nous sommes les Spartiates, » dit quelquefois Pierre. « C'est ainsi qu'on fait des hommes robustes. »« Ou qu'on prend des fluxions de poitrine, » répond Marie, qui est restée plus douillette que nous. Grâce au châle de Madame Guélec, j'étais aujourd'hui à l'abri des fluxions de poitrine et tout Spartiate qu'il est, Pierre lui a su gré de cette attention. Je l'ai bien vu et je suis sûre qu'il a été tantôt plus sage que d'habitude par reconnaissance. Je le lui demanderai ce soir quand il rentrera. « Es-tu heureux, lui ai-je dit tout bas en partant, de travailler dans cette petite chambre bien chaude ? J'aimerais bien passer le reste de ma journée ici. »« Avec moi ? » s'écria Pierre. « Mais, à nous deux, nous mettrions la cure sans dessus-dessous, comme tes cahiers. » Et se tournant vers M. le curé, qui, derrière ses vitres, assistait à l'embarquement, « Vous avez assez de moi tout seul, n'est-ce pas, Monsieur le curé » cria-t-il. M. le curé sourit, mais je ne répondrai pas qu'il n'ait fait d'abord, malgré lui, un mouvement des lèvres pour dire oui. Le chargement de la charrette, au retour, n'était pas des plus élégants. Françoise rapportait à la Janière de quoi monter trois boutiques complètes, épicerie, boucherie, boulangerie. Dans le grand panier à viande, quelque chose comme un animal phénomène de la foire, une tête de veau qui avait des pieds de mouton et une entrecôte de bœuf. Dans l'autre panier, deux grands pains de 6 livres, rassis naturellement pour nous et les domestiques, et le petit pain frais de Tante Julie que le boulanger envoie tous les jours, excepté le mercredi. Dans un coin, derrière moi, la grande burette d'huile à brûler, qui, par parenthèse, a mis une grosse tache sur un de mes livres, tombée par là. Des paquets de bougies, des boîtes de conserve, des allumettes, du bois de réglisse pour les tisanes de ma tante, de la morora pour la grange et une bouteille de cirage. Quelle cargaison ! Nous avions l'air de marchandes ambulantes. Françoise trouvait cela tout naturel. Mais le pauvre petit âne trottait moins vite qu'en venant. C'est moi qui le conduisais et nous avons fait une entrée triomphale à la Janière. Tout le monde était là pour nous voir arriver, la vachère, les repasseuses, les poules, les oies et les canards. Léonard, qui était venu aider au déballage, vit du premier coup d'œil le chat étranger. Aussitôt, il s'élança pour le sauver de la bagarre, avec une figure si inquiète que je ne pus m'empêcher de rire. Cependant, comme il le pliait avec beaucoup de soin, « C'est un châle que Mademoiselle Guélec m'a prêté, dis-je d'un air très digne, et qu'il faudra lui rendre le plus tôt possible. » Vous le donnerez demain à Monsieur Pierre, il emportera. » Léonard ne parut impressionné ni par mon grand air, ni par l'ordre qu'il recevait. Il me laissa dire, puis tranquillement, « Je vais moi-même à Saint-Martin, dit-il, je ferai la commission de Mademoiselle. » Et il mit le châle sur son bras d'un air déterminé. Pendant une minute, j'en voulus un peu à Léonard. Qu'oserait-il faire si j'usais d'autorité, si j'insistais pour... Mais, arrivé dans le vestibule, je baissai pavillon. Si Mademoiselle Guélec voyait le monceau de vieux manteaux et de vieux chapeaux qui s'étalent pêle-mêle sur la banquette, plus que probablement, elle donnerait raison à Léonard. 23 janvier. Maurice est enrhumé et c'est la faute de Marie. Marie a la prétention d'être très raisonnable pour son âge, mais ce n'est pas la peine de parler avec tant d'embarras de sa sagesse et de ses 16 ans quand on fait si souvent des choses qui n'ont pas le sens commun. J'avais bien raison de regretter l'air piquant et nos belles gelées de ces jours derniers. Nous voilà retombés dans cet éternel brouillard et c'est pire que tout. Maurice n'aurait pas dû mettre son petit nez dehors par ce temps-là et Marie l'a laissé jouer dans le jardin, prétendant que l'air était doux. Léonard ne le savait pas sorti, il aurait certainement fait rentrer bien vite. C'est lui qui a pensé à déchausser Maurice quand il a su, trop tard malheureusement, qu'il avait marché dans le sable humide. Ses chaussures sont en mauvais état et ses pauvres petons étaient tout mouillés. Léonard s'est fâché et en a parlé à Mélanie, mais elle a répondu qu'elle ne pouvait être partout à la fois et que Mademoiselle Marie était assez grande pour veiller sur son petit frère. C'est vrai. Pourtant, nous ne pouvons aller nous-mêmes sans permission acheter ce qu'il nous faut, et si personne n'a plus de temps de s'en occuper, qu'allons-nous devenir? C'est de plus en plus une pétaudière ici. Je voudrais bien devenir invisible et entrer dans d'autres maisons pour comparer. Mais non, on ne trouverait nulle part un autre intérieur comme le nôtre, c'est impossible. Tout cela se passait hier pendant ma leçon. C'est en rentrant que j'ai trouvé Maurice sur les genoux du brave Léonard qui le séchait de son mieux dans la cuisine. À la Janière, la cuisine est notre grand refuge. Autrefois, quand nous vivions avec papa, il nous était défendu d'y paraître. Mais ici, tout est si différent. C'est donc en y entrant que j'ai surpris l'altercation entre Léonard et Mélanie. Maurice toussait à faire pitié. Quoi qu'en dise Pierre, le pauvre petit est trop délicat pour qu'on en fasse jamais un vrai spartiate. Il aurait besoin, au contraire, d'être bien soigné. Il est encore si petit. Oh, que je regrette pour lui la bonne Fridoline qui savait si bien dorloter son Moritchen, comme elle l'appelait. Je ne puis m'empêcher d'en vouloir un peu à tante Julie de l'avoir fait partir, et je sais bien d'ailleurs que papa en a été très mécontent. Mais, comme toujours, notre tante n'y était pour rien, c'est Mélanie qui a exigé le départ de notre pauvre Fridoline. Elle ne voulait partager son autorité avec personne, et Fridoline prétendait naturellement nous diriger à sa guise. Aussi a-t-elle dû s'en aller. On apprend beaucoup de choses à la cuisine. Je n'aurais jamais bien compris les querelles de Mélanie et de Fridoline si je n'avais entendu les raisonnements de Léonard et de Françoise. Du reste, je n'avais jamais tant réfléchi à toutes sortes de choses avant mon arrivée à la Janière. Si c'est là ce qu'on appelle l'expérience, je finirai par en gagner beaucoup. J'étais très gaie en revenant de ma leçon. La charrette était moins chargée que mercredi dernier, j'avais fait trotter Biquet tout le long du chemin. Nous avions même failli verser en passant sur une grosse pierre. Il faut que j'apprenne à les éviter. Le chaos avait renversé un panier et éparpillé sous nos pieds toutes sortes de petits paquets. Françoise jetait les hauts cris. Je m'étais bien amusée, mais dès l'arrivée, quel changement! Je n'ai pas souvent des idées noires, ce n'est pas dans mon caractère. Mais si papa me voyait aujourd'hui, il ne m'appellerait plus son petit Roger Bontemps. C'est qu'aussi les choses vont si mal qu'avec la meilleure volonté du monde, je ne puis leur trouver un bon côté. Maurice tousse beaucoup, c'est cela qui me rend triste. Le pauvre petit n'était pas assez couvert. J'ai cherché dans le fouillis de sa commode pour lui découvrir une robe chaude, mais je n'ai trouvé que ses petits jupons de l'an dernier. Je ne savais que faire. Marie était chez nos aimables voisins du Petit Guet, comme dit tante Julie, pour y faire de la musique. Miss Harley est venue la chercher pompeusement en voiture. Dans cette famille-là, ils sont 6 musiciens qu'ils jouent tous à la fois sur 2 ou 3 pianos. Je serais curieuse de les entendre derrière la porte. Mais ce n'est pas à la musique que je pensais à ce moment-là. J'étais furieuse contre Marie. Si elle était ici, elle trouverait peut-être quelque chose pour faire un jupon chaud à Maurice. Plus je me répétais cela, plus je me sentais fâchée. Mais cela n'avançait à rien. Aussi, faute de mieux, ai-je fini par lui donner le mien. À grand point, j'ai bâti un pli en bas pour le raccourcir, et maintenant, Maurice a chaud et je suis moins en colère. Mais ce n'est pas tout. J'avais mis dans ma tête de lui faire de la tisane moi-même et sans déranger personne. La chambre des garçons a du feu depuis hier et Léonard l'entretient de si bon cœur qu'il semble vouloir rattraper tout le temps perdu depuis le commencement de l'hiver. Je pensais qu'il me serait facile de faire là ma cuisine et cela m'amusait d'avance. Mais le guignon s'est acharné contre moi toute la journée. J'étais entrée à l'office à pas de loup pour prendre tout ce qu'il me fallait, du lait, du sucre, de l'orge perlée, une tasse et une soucoupe. Je rangeais mes provisions sur un plateau, quand tout à coup, patatras, voilà la soucoupe en miettes sur le carreau. Aussitôt, Françoise accourt, effarée, comme si tout était perdu. Quoique très vexée intérieurement, je reste calme. « Ce n'est rien, Françoise, une soucoupe cassée, voilà tout. » Voilà tout, comme si ce n'était pas assez pour me faire gronder jusqu'à demain. Puis j'emporte mon plateau, me disant que Maurice pouvait bien se passer de soucoupe. Pendant que Françoise ramassait les débris en prononçant sur chacun une petite oraison funèbre, je me faufile à la cuisine, je décroche au passage une petite casserole et je me sauve. Nous voilà bien confortablement installés, Maurice et moi, de chaque côté de la cheminée, moi soutenant la casserole établie sur un petit brasier et Maurice m'admirant. Tout va d'abord à merveille. Mais comme je levais la tête, cherchant des yeux la cuillère sur la cheminée, un charbon se détache d'une des bûches et vient s'éteindre avec un sifflement terrible au beau milieu de mon orge perlé. Sans réfléchir, je plonge mes doigts dans la tisane, je me brûle, je sursaute, nouveau patatras. La casserole roule sur le côté, le feu est à moitié éteint et la vieille carpette inondée d'eau est semée d'orge perlée. Je me précipite sur une éponge. Puis, à quatre pattes sur le tapis, je pompe l'eau, je pousse les petits grains d'orge, je frotte, je sèche de mon mieux. Tout est sauvé. Mais non, Maurice jette tout un coup un cri d'alarme. « Thérèse !» Je me retourne, Mélanie entrait. Quelle scène ! Mélanie criait, Maurice pleurait, une vraie tempête, le tonnerre, la pluie, des éclairs dans tous les yeux. Je fus grondée pour avoir fait de la tisane moi-même au lieu d'en demander à Mélanie, pour avoir renversé la casserole, pour avoir saisi l'éponge de pierre, pour tous mes défauts en général et ma maladresse en particulier, pour les dégâts que je commets sans cesse dans la maison, avec un petit chapitre sur la soucoupe cassée et pour le tracas perpétuel que je donne à ma tante et surtout, je pense, à Mélanie. Quand ce fut fini, elle emporta le tapis mouillé. Je n'avais pas soufflé mot, les petits grains d'orge cuisaient sur la cendre. Je les regardais machinalement et je me disais en moi-même « Maintenant, mon pauvre Maurice n'a plus de tisane ». Heureusement, Léonard arriva à la rescousse. L'ouragan ayant soufflé jusqu'à l'office, il savait déjà la catastrophe. Il refit un bon feu, mit chauffer du lait dans la casserole et me recommanda bien de n'y pas toucher. Ce n'était pas très flatteur, mais je ne lui en veux pas. Puis, tout en lavant et pressant de toutes ses forces l'éponge de pierre dans une terrine qu'il avait apportée, il me donna à entendre qu'une éponge de toilette n'est pas faite pour essuyer les tapis et me répéta, après Mélanie, mais plus doucement, que j'avais eu tort de vouloir préparer la tisane moi-même au lieu d'en demander à la cuisine. « C'était si simple, dit-il, on ne pouvait certes pas vous en refuser. » Depuis un instant, ma gorge me serrait, mes yeux devenaient brûlants et j'essayais de ne pas pleurer, de ne pas crier, mais sur ces derniers mots, j'éclatai. Ce fut comme un torrent de larmes et de plaintes. Le pauvre Léonard en resta abasourdi, immobile, son éponge en l'air. « Qui sait si on ne m'en aurait pas refusé ? Qui sait si Mélanie ne m'aurait pas reproché encore la peine que nous donnons ici ? Elle s'inquiète bien de nous. Je ne veux jamais rien lui demander, au contraire, quand même nous manquerions de tout. Mais je me plaindrai à la fin à notre pauvre papa qui nous croit bien soignés et qui ne se doute pas combien nous sommes malheureux. Je me plaindrai à ma tante Daubenel, à tante Julie même. » Léonard s'était redressé, tout inquiet, me croyant prête sans doute à courir chez tante Julie. Il essaya de me consoler, disant que j'exagérais. Il sait bien que non, pourtant, que Mélanie était un peu énervée dans ce moment par ses fatigues de garde-malade, mais qu'elle se calmerait peu à peu et que tout s'arrangerait. Moi, dans mon exaspération, je ne voulais rien écouter. S'arranger ? Comment ? Quand tante Julie sera guérie ? Mais puisqu'elle ne va pas mieux, elle sera malade encore bien longtemps, sans doute. » Léonard secoua la tête. « J'en ai peur, murmura-t-il. » Il avait l'air si triste qu'il me fit peur aussi. Mes larmes s'arrêtèrent. « Léonard, vous ne voulez pas dire ? Vous ne croyez pas que ma tante ne sera jamais guérie ? Qu'a-t-elle ? Le savez-vous ? » Il se détourna, l'air gêné, cherchant une réponse. « Non, dit-il enfin, mais je sais que mademoiselle sera malade longtemps encore, et alors, forcément, les choses devront s'arranger autrement. Il faudra bien prendre un parti. » Je ne comprenais pas, et j'aurais voulu questionner encore Léonard, mais je vis que je n'en tirerais plus rien. « Le lait est chaud, dit-il brusquement, après un instant de silence. » Il le versa lui-même dans la tasse, fit en passant une caresse à Maurice, et sortit sans me regarder. Je me sentais de plus en plus triste. Prenant Maurice sur mes genoux, je lui fis boire son lait, puis il s'installa confortablement, la tête sur mon épaule. Alors je le berçai devant le feu, comme un petit bébé, et il finit par s'endormir, sans tousser une seule fois.